Nous sommes venus ici, chacun avec notre vie, avec nos joies, nos espérances, nos projets, avec aussi nos soucis, nos questions et nos fatigues. Nous sommes venus ici car un homme, Jésus, le Christ, est venu rejoindre d'autres humains sur leur chemin pour faire route avec eux, et il l'a fait d'une façon si bouleversante que nous y reconnaissons un signe de toi, notre Dieu et notre Père. Un signe que toi, notre Dieu, tu nous accompagnes comme un ami, comme un enfant bien-aimé, nous donnant sans condition la grâce, la miséricorde et la paix. Présentons-nous ensemble devant ce Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret liturgique qui est au début du psautier français et qui accompagnera ce culte. Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. C'est une joie d'être ensemble pour ce temps de culte, ce temps d'ouverture à quelque chose de nouveau qui nous vient de Dieu. Bienvenue au pasteur Marcel Manoël qui est venu de Saint-Jean-du-Gard. C'est pour dire, parce que quand même là-bas il fait super beau, on est bien, et il est venu ici pour nous donner la prédication, donc avec reconnaissance. Et puis tout particulier bienvenue à Henri et Claire Bost, un frère et une sœur qui se sont motivés ensemble et mutuellement pour demander le baptême. Alors cette belle démarche, Henri et Claire, m'a fait penser à ce psaume 133, psaume des montées, psaume qui cherche ce qui élève et que l'on pourrait traduire ainsi. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et sœurs de vivre unis ensemble. C'est comme l'huile de bénédiction qui est répandue sur la tête, dégouline sur notre vie tout entière, sur notre prière, sur notre espérance de Dieu et sur nos plus petites actions justes. Ces temps de réconciliation sont comme une rosée fécondante sur le temps et sur l'espace, sur la profondeur de nos réflexions et sur l'élévation de notre foi. Car c'est là que l'Éternel a établi la bénédiction, la vie pour l'éternité. Après cette ouverture à Dieu, je vous propose de poursuivre dans la louange avec le psaume 98 que vous trouverez dans le psautier français. Entonnons un nouveau cantique, les trois premières strophes de ce psaume 98.
Thank you.
Vous pouvez prendre place pour entendre ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Écoute le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier, le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Alors face à cet idéal infini de l'amour, nous pouvons nous reconnaître comme ayant une marge de progression possible et nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Maintenant, ô notre Dieu, nous ne voulons plus vivre entourés de ces murs de haine, de ces murs de solitude, murs de notre misère, murs de nos plaintes, murs de notre mort. Alors, Dieu, source ultime de la vie, nous t'apportons tout ce qui fait notre esclavage et ce qui nous aveugle. Nous t'apportons toutes ces barrières qui nous éloignent de toi, tous ces murs qui nous divisent entre nous et qui étouffent le meilleur en nous-mêmes. Nous espérons en toi, toi que Jésus-Christ nous a fait connaître, la source transcendante de pardon, de libération, de paix et de vie bonne, juste et belle. Amen. Mais le prophète Jérémie disait de la part de Dieu au peuple qui se croyait abandonné en exil, en galère, « Moi, je sais les projets que j'ai formés pour vous, projets de prospérité et non de malheur, et je vais vous donner un avenir et une espérance. » Ce message est pour nous aussi et pour notre monde. Vous qui avez faim et soif de vie, de liberté, de bonheur, d'espérance, vous êtes heureux, déjà heureux, car aujourd'hui et avec toute génération, Dieu est pour vous et il vient demeurer en vous pour vous fortifier, pour vous établir, pour vous éclairer. Quelle grâce nous a été ainsi faite. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance.
Thank you.
Vous pouvez prendre place. Et donc j'accueille avec grande joie Henri et Claire qui ont demandé à recevoir le baptême parmi nous ce matin. Alors bienvenue à ceux qui vous entourent, à donc votre mari, votre compagne, votre mère, avec une pensée aussi donc pour votre père, bien sûr, à tous les deux. Claire, Henri, vous avez demandé le baptême. Alors c'est un geste fort qui vient marquer une fidélité à votre papa, mais aussi une fidélité à l'Évangile, avec tout ce que ça insuffle d'incroyablement fort et vrai dans notre existence. Alors votre démarche est marquée par la volonté de vivre plus profondément, dans la construction, dans un cheminement authentique, responsable. En particulier, tous les deux, vous construisez une famille. Alors nous étions ici en octobre dernier avec Claire et avec Stéphane, donc, qui est venu avec ses parents qui viennent exprès donc de Hollande. Ce n'est pas tout près non plus. Et donc, Henri, vous aussi, vous construisez une famille et c'est pour cela aussi que vous désirez tous les deux vous ouvrir à l'essentiel au-delà donc de la simple vie quotidienne vers un essentiel qui donne sens à tout le reste. Et donc vous voilà demandant le baptême. Tout ce chemin parcouru jusqu'à maintenant nous porte à la joie et à la reconnaissance, mais ce chemin est ouvert largement devant vous, et pas après pas, jour après jour, il est encore semé de merveilles absolument insondables. Nous prions. Seigneur, selon ta promesse, envoie ton esprit de lumière et de vie. Tu accueilles Henri et Claire. Le baptême est un signe de ta grâce, un signe de ton alliance, de ton amour inconditionnel avec Claire et avec Henri. Qu'avec le Christ, ils reçoivent une dimension nouvelle qui ne pourrait venir que de toi. Que par ton esprit, ils participent à ce corps que nous formons ensemble, au-delà des limites visibles de nos chapelles, de nos religions, de nos institutions. Amen. Alors à nous tous, frères et sœurs, par ces baptêmes, Dieu nous rappelle l'amour qu'il a pour chacune et pour chacun de nous, la grâce que tu nous fais de nous considérer comme ton enfant bien-aimé. C'est pourquoi, dans la joie et dans la reconnaissance, nous entourons Henri et Claire, et avec eux, nous confessons notre foi et nous affirmons notre volonté de nous consacrer toujours à nouveau, toujours plus profondément en Christ pour un service responsable et fidèle. Alors d'abord Claire, par galanterie. Claire, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu vous conduira sur le chemin de la vie dans sa paix, sa force et sa joie. Henri, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Henri, Dieu vous accompagnera sur le chemin de votre vie et vous donnera sa force, sa paix et sa joie. Alors vous avez choisi de dire d'abord quelques mots pour expliquer votre démarche à tous les deux. Je pense que c'est Henri qui est le porte-parole. Merci.
Né d'une mère catholique et d'un père protestant, nous avons grandi dans l'amour de Dieu et le partage des valeurs chrétiennes. Ces valeurs font partie intégrante des personnes que nous sommes devenues aujourd'hui et de celles que nous souhaitons continuer à être à l'avenir. Nos parents avaient fait le choix de nous laisser la liberté de choisir la religion par laquelle nous nous sentirions les plus libres de nous rapprocher de Dieu. Le choix du protestantisme s'est imposé naturellement à nous au cours des années. Nous apprécions en effet le pragmatisme de son approche de la relation de chacun à Dieu et la liberté qu'il offre à chacun de pouvoir construire et développer sa foi.
Ce choix est également important pour nous au regard de notre histoire et de celle de notre famille. Être baptisés aujourd'hui ensemble est notamment une manière importante de saluer la mémoire de notre Père. Nous tenons à remercier le pasteur Marc Pernaud pour son accueil et pour son écoute, sans laquelle nous n'aurions probablement pas sauté le pas de manière aussi naturelle et constructive.
Alors merci à tous les deux pour cette force que vous avez trouvée ensemble, voilà, pour avancer et pour faire place à Dieu, à l'évangile du Christ dans votre vie. Alors voyez, le baptême est donné sans condition et vous avez reçu le baptême avant même de dire un mot. Enfin, cela dit, on ne vous a pas non plus enchaîné pour vous tirer de force ici, mais c'est le symbole de cette grâce inconditionnelle que Dieu a pour nous, grâce qui nous précède, qui précède notre foi et qui l'espère. Mais effectivement, répondre un oui à ce Dieu qui nous accueille sans condition, eh bien, c'est quelque chose qui scelle une sorte d'alliance mutuelle avec Dieu. Alors en signe de cette foi, de ce oui à Dieu, eh bien vous avez écrit chacun une confession de foi qui résume un peu ce qui est essentiel pour vous dans cette démarche de foi. Donc ça sera d'abord Henri qui fera une confession de foi, puis Claire. Donc je vous propose de vous lever pour manifester votre foi à vous et vous unir donc par l'esprit, par le cœur, par la foi, à ces confessions que nous proposent Henri et Claire.
Je crois en l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Je crois que la nature profonde de l'homme, à l'image de Dieu, est de chercher chaque jour à construire le bien autour de lui. Je crois que Dieu nous apporte chaque jour sa lumière afin de nous aider à participer à la création d'un monde d'amour, de justice et de paix. Je crois en l'unique Dieu d'amour.
Je crois en Dieu, créateur de l'infini et de l'éternel. Je crois en Jésus et son amour universel. Je crois en la présence du Seigneur en chacun de nous pour nous guider et donner un sens à notre vie. Même lorsque nous nous éloignons de la foi, que ce soit par choix ou par un lent éloignement involontaire, son amour est tel qu'il nous permet de choisir notre propre voie pour revenir vers lui. L'homme ne peut se passer de son amour, et c'est ce qui l'engage pour en être digne, à aimer son prochain et à faire le bien sur terre.
Grand merci à tous les deux, et nous répondons donc par le chant qui est, après la confession de foi, « Célébrer Dieu ». Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Claire et Henri, vous avez donc reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, en particulier pour vous. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église universelle, c'est-à-dire de cette large communauté de tous ceux qui cherchent Dieu en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Nous prions Dieu. Oui, notre Père, nous te remercions pour Claire et pour Henri que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Grande est notre joie. Plus grande encore, nous le savons, est ta joie, ô notre Dieu, pour ce geste de foi, de réponse à ta grâce. Alors tu accompagnes, tu épanouis, tu enrichis encore jour après jour la foi de Claire et d'Henri. que leur vie, jusque dans ses plus petits gestes, porte ainsi la paix, l'espérance, la foi et l'amour autour d'eux. Qu'ils soient ainsi une bénédiction pour ceux qui les entourent. Fais que leur témoignage parmi nous à l'oratoire porte aussi du fruit en nous-mêmes, nous qui avons eu la chance d'être là ce matin. Que cela nous aide à nous approcher sans cesse plus de toi, à être plus confiants dans ta parole, à être mieux et plus profondément au service des autres et avoir le courage du pas suivant. Oui, que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Grand merci à tous les deux.
Frères et sœurs, chers amis, merci de m'accueillir pour ce temps de culte. Peut-être avez-vous noté que nous sommes en campagne électorale. Alors rassurez-vous, je ne suis pas venu vous dire pour qui voter. En protestantisme en tout cas, chacun est responsable de ses décisions. Et l'Église là que pour accompagner et soutenir ses choix. Mais il m'a semblé qu'il était peut-être bon que nous prenions un peu de distance par rapport au feuilleton quotidien et que nous écoutions quelques textes bibliques qui peuvent peut-être nous aider et nous éclairer. Je ferai allusion à plusieurs de ces textes, mais je vous en lis tout d'abord trois. Le premier, une histoire assez savoureuse, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8, je lis quelques versets du début de ce chapitre. Lorsque Samuel devint vieux, il nomma ses fils juges en Israël. Mais les fils de Samuel ne suivirent pas sa voie. Ils avaient un penchant pour le profit, acceptaient des pots de vin et portaient atteinte au droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Rama et lui dirent « Toi, tu es vieux et tes fils ne suivent pas tes voies. Maintenant, donne-nous un roi qui soit notre juge, comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent de les entendre dire « Donnez-nous un roi pour qu'il soit notre juge. » Et Samuel pria le Seigneur. Et le Seigneur dit à Samuel « Écoute le peuple pour tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Ils ne veulent plus que je sois roi sur eux. Maintenant donc, écoute-les, mais avertis-les et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel dit toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi, et il dit « Voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les affectera à ses chars et à ses attelages. Ils iront devant son char comme gardes du corps. Il les nommera chef de 1000 ou chef de 50. Il leur fera labourer ses terres, récolter sa moisson, fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra le meilleur de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et il le donnera aux gens de sa cour. Ainsi, vous deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez contre le roi que vous vous serez choisi, mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel. « Tant pis, dirent-ils, il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi sera notre juge, il conduira nos armées et mènera nos guerres. » Et puis, en contraste et comme en réponse des siècles après, cette discussion entre Pilate et Jésus au moment de son procès. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou bien est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi ?» Et Pilate répondit « Suis-je donc juif, moi ? C'est ta nation et tes grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Et Pilate lui dit, « Toi, tu es donc roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Et Pilate lui dit, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et enfin, je lirai dans l'Épître aux Romains le début de ce fameux chapitre 13 qui nous pose quelquefois bien des problèmes. « Que chacun soit soumis aux autorités établies. » Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Et ceux qui s'opposent attireront un jugement sur eux-mêmes. Les chefs, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu donc ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien. Et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu. Je mets une parenthèse dans le texte grec, c'est le mot diakonos qui est employé, serviteur, qui donnera dans l'Église diacre. Les autorités sont diacres de Dieu, pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée, en effet, elle est au service de Dieu. Et c'est encore le mot « diakonos » qui est là, pour faire justice, pour la colère contre celui qui pratique le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la colère, mais encore par motif de conscience. Et c'est pour cela aussi que vous payez des impôts. Car les gouvernants sont attachés au service de Dieu pour cette fonction même. Et ici, dans le grec, c'est le mot « laiturgos » qui apparaît. « Laiturgos » qu'on peut traduire par « fonctionnaire » et qui a donné dans l'Église « liturge ». Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Je vous invite à chanter dans notre recueil Louanges et prières, le numéro 213, Gloire à ton nom, ô Dieu de paix, les trois strophes de ce cantique. Seigneur, fais-nous maintenant entendre ta parole. Elle nous est offerte et cependant nous résiste. Elle est forte et cependant s'estompe, fragile sous le flux de nos maux. Elle est limpide et cependant cachée. Elle se cherche comme à tâtons. Apprends-nous à chercher, scruter, patienter, demander. Ne nous laisse pas nous décourager, car c'est toi-même, Seigneur, qui nous parles, comme un ami parle à son ami.
Thank you.
Nous voulons un roi. Un peuple réclame un chef puissant parce qu'il en a assez de la corruption, assez de la violation des droits, assez de ne pas être respecté parmi les nations. Un chef puissant, même s'il faudra payer et payer cher pour cela, même si l'alliance de libération conclue avec le Dieu du Sinaï en est brisée. Ma royauté n'est pas de ce monde. Des siècles plus tard, Jésus constate un décalage. Aveu d'échec. Constatation d'une incompatibilité entre la terre des humains et le ciel de Dieu. Voire, en n'ayant pas peur de l'anachronisme, consécration prophétique d'une laïcité qui séparerait non seulement pouvoir civil et pouvoir religieux, ce que le protestantisme en général approuve, mais aussi évangile et politique. C'est sur ces questions que je voudrais vous proposer quelques éléments de réponse en plusieurs temps. Et tout d'abord, oui, l'Évangile est politique. Jésus entame son ministère en annonçant « Le royaume de Dieu s'est approché ». Il inscrit ainsi la volonté de Dieu dans une proximité, ce qui indique à la fois une distance et un lien. Une distance, parce que le royaume de Dieu n'est pas là, pas encore. Ce qu'expriment aussi nombre d'autres textes, par exemple les paraboles du royaume, celle du grain semé par terre, encore invisible, mais qui poussera jusqu'à devenir un arbre. Celle du bon grain et de l'ivraie qui nous explique qu'il est dangereux de vouloir trier trop vite. Nous ne sommes pas dans le royaume. Nous ne maîtrisons pas le royaume. Et chaque fois qu'on a voulu faire comme si, en imposant un régime de chrétienté, on a abouti à l'enfer des dictatures religieuses. Une distance, mais un lien. Le royaume de Dieu n'est pas loin. Et il n'y a pas de séparation étanche entre le ciel et la terre, ni entre le privé du chrétien et le public de la cité humaine. Dieu a une volonté pour notre monde, une volonté qui interpelle nos réalités humaines, une volonté qui a planté dans ce monde les graines du royaume, ces graines que nos actes, nos décisions, nos politiques sont appelés à faire croître. Depuis le psalmiste qui proclamait « Amour et vérité vont se rencontrer, justice et paix s'embrasser, la vérité sort de la terre et la justice se penche des cieux, le Seigneur lui-même donne le bonheur. » Jusqu'au voyant de l'Apocalypse qui entreaperçoit le ciel nouveau et la terre nouvelle, la demeure de Dieu parmi les humains, où la mort ne sera plus, et où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Du psalmiste au voyant de l'Apocalypse, les Écritures témoignent du projet de Dieu pour le monde. Ce projet que nous pouvons discerner de manière particulièrement claire en Christ, comme le proclame l'Épître aux Éphésiens. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Si la foi est ce mouvement de vie qui nous fait regarder au Christ, elle nous fait discerner en lui, pour l'histoire de notre monde, et pas seulement pour notre propre histoire, un sens et une espérance. Oui, l'Évangile est politique, fondamentalement et authentiquement politique. Mais en disant cela, il faut dire en même temps, non, l'Évangile n'est pas un pouvoir politique, mais une parole adressée à nos responsabilités, une parole critique, une parole de lucidité. Il faut bien reconnaître que la Bible, en général, porte un regard assez cru sur les pouvoirs, quels qu'ils soient. Vous l'avez entendu dans l'histoire du peuple qui réclame à Samuel un roi, et même ceux qu'elle présente comme les élus de Dieu, David, Salomon, etc., ne sont pas exempts d'infidélité. Alors il ne s'agit pas de tomber dans la démagogie du tous pourri, mais il s'agit de prendre conscience du caractère humain, c'est-à-dire limité, faillible et parfois illusoire du pouvoir politique. Un des textes les plus critiques est sans doute au chapitre 9 du livre des Juges, je vous invite à le relire chez vous, la fable de Yotam, le plus jeune des fils de Gédéon, qui dénonce la tentative de prise de pouvoir de son demi-frère Abimélec. Les arbres s'en allèrent conférer l'onction à leur roi. Ils dirent à l'olivier, « Sois notre roi !» Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile, ce que les dieux et les humains apprécient chez moi, pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Alors les arbres s'adressent au figuier, puis à la vigne, les arbres les plus utiles en Palestine après l'olivier, mais tous font la même réponse. Enfin, tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, sois notre roi !» Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est loyalement que vous voulez me conférer l'onction pour que je sois roi sur vous, venez, abritez-vous sous mon ombrage. » Ce qui est dénoncé ici, c'est bien sûr la vanité du puissant qui se trompe sur ses possibilités réelles et l'empêchera d'accomplir ses promesses. Essayez donc de vous abriter à l'ombre d'un buisson d'épines. Mais c'est aussi l'erreur du peuple qui se laisse berner. C'est là un épisode particulier, mais qui nous alerte, je crois, sur un risque général, l'aveuglement. Notre aveuglement. Quand nous ne voyons que nos désirs ou nos peurs, ce qui nous empêche de voir la réalité. L'aveuglement qui ouvre à la tentation de se tourner vers un puissant, quel qu'il soit, qui réalisera nos ambitions à notre place. Un puissant, efficace, héros, saint, irréprochable. Bref, une sorte de Dieu qu'il suffirait d'invoquer. C'est sans doute le refus d'être ce puissant-là qui explique l'attitude de Jésus devant Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. il a refusé d'être le fournisseur de pain gratuit, le faiseur de miracles spectaculaires, le meneur d'une révolte. Lui a vu clair, et peut-être d'abord dans ses propres désirs de puissance, et c'est ce qui nous est raconté, me semble-t-il, dans le récit de sa tentation sur la montagne. Comme dans les attentes troubles des foules qui le suivaient. Alors, non seulement l'évangile tel que le vit Jésus n'est pas une prise de pouvoir politique, au contraire, il en dévoile les ambiguïtés, les jeux de désir et de peur, et il les dévoile publiquement. Si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Alors, faudrait-il séparer évangile et politique? Et en tant que chrétien, en tout cas, se cantonner à l'annonce de l'évangile sans se mêler de la vie de la cité? Au contraire, et c'est là ma troisième proposition, l'évangile ouvre l'exercice de notre liberté et de notre responsabilité politique. Fondamentalement, l'évangile, c'est une parole incarnée, Jésus de Nazareth. L'évangile n'est pas une utopie, mais un regard. Pas une idéologie, mais un service. Pas une collection de valeurs ou de normes transcendantes, mais un compagnonnage. Si l'Évangile proclame haut et fort des valeurs, la paix, la justice, l'amour, il ne se contente pas d'une sorte d'incantation, mais il exhorte à des engagements durables, patients, réalistes. La paix, ce n'est pas un acquis, mais c'est le travail de la réconciliation concret, modeste, persévérant, qui seul permet de la préserver ou de la reconstruire quand elle a été mise à mal. La justice, ce n'est pas seulement un droit, mais c'est une pratique de la solidarité dans le souci de l'autre, le dialogue, le partage. L'amour, le bonheur, la vérité, ce ne sont pas des valeurs à promouvoir et respecter, mais c'est ce qui se reçoit, qui se construit, qui se vit dans le service les uns des autres. Ainsi, l'Évangile nous ouvre un espace d'action. Nous ne sommes pas enfermés dans les réalités existantes, avec parfois leur poids et leur cynisme. Pas non plus obligés par un idéal divin, une loi absolue qui nous culpabiliserait, mais dans un espace ouvert, où nous avons à faire des choix et où nous pouvons les faire en assumant notre dignité comme notre fragilité humaine. L'espace politique, un espace humain avec ses limites, ses risques d'erreur, parfois ses dérapages, mais aussi l'espace des possibles pour l'exercice de notre liberté et de notre responsabilité. Mais allons encore un peu plus loin, et ce sera ma dernière parole, peut-être adressée spécialement à nous qui partageons la foi chrétienne. Et j'en viens à ce surprenant chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Soumettez-vous, les autorités ont été instituées par Dieu, ceux qui s'opposent recevront une condamnation, et payez vos impôts. c'est d'abord un fameux contre-pied. Car il semble bien que dans l'Église de Rome, il y avait des Juifs qui avaient subi l'antisémitisme de l'empereur Claude avec ses violences et ses spoliations, et qui, revenus dans la capitale, n'avaient pas grande envie de se soumettre et de payer l'impôt. Et c'est aussi une parole qui provoque, car lorsque Paul parle des autorités romaines comme de serviteurs ou de fonctionnaires de Dieu, il est bien évident qu'il ne se réfère pas à leur qualité religieuse ou morale. Leur façon de vivre comme de gouverner était bien loin des exhortations que Paul donne par ailleurs. Et les fameuses affaires actuelles ne sont que broutilles à côté des mœurs politiques de l'époque. Si ces autorités sont ainsi reconnues, c'est au travers d'une lecture théologique de l'histoire. De la même façon que, en Christ, par la foi, les chrétiens, nous, moi, sont vus dans leur vocation de créature nouvelle. De la même façon, au regard de Dieu, les autorités politiques, même sans Dieu, sont appelées et reconnues comme autorités dans leur service du bien commun. Cela signifie bien sûr que ces autorités ne sont que serviteurs et pas Dieu. Elles ne détiennent pas la vérité ultime, ni le droit d'imposer un sens à la vie humaine ou à la destinée du monde. Chacun garde le droit et le devoir de critique, de révolte même, lorsque l'autorité sort de son rôle et qu'elle se sert elle-même, qu'elle se glorifie elle-même ou qu'elle a servi les autres. Mais cela signifie aussi que dans ce cadre du service du bien commun, nous sommes appelés à reconnaître les autorités en place. C'est là peut-être aujourd'hui à nouveau un contre-pied dans une société où l'action politique est souvent paralysée par les intérêts personnels ou catégoriels, parfois par la défense scandaleuse de privilèges. En tout cas, reconnaître une autorité ne peut pas se limiter, comme nous le faisons trop souvent, à mettre un bulletin dans l'urne et puis rentrer chez soi pour râler devant la télévision. Reconnaître une autorité, surtout si on la reçoit comme serviteur de Dieu, c'est prendre sa part de responsabilité politique, de charge, parfois de renoncement et de sacrifice, à la suite du Christ, à l'image du Christ. Un contre-pied, je disais, théologique, que je crois nous devons offrir à notre société, c'est peut-être un paradoxe, pour retrouver paradoxalement le vrai sens de la démocratie. Alors, frères et sœurs, quand nous nous préparons à exercer nos responsabilités, peut-être faut-il tout d'abord nous poser la bonne question. Non pas qui va défendre au mieux mes intérêts, mais quel est celui ou celle que je pourrais peut-être regarder comme diacre de Dieu, serviteur des autres dans la situation actuelle. À côté de moi, au travers de ses qualités et de ses propositions, en sachant qu'il est humain comme moi, imparfait et limité comme moi, mais aussi avec moi, appelé à vivre la dignité de la liberté et de la responsabilité humaine. Alors, frères et sœurs, en ce temps du choix politique, écoutons l'Évangile. Méditons l'Évangile. Laissons-nous libérer par la parole de l'Évangile. Prions, votons et ne cessons pas d'exercer nos responsabilités. Amen. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien. Je vous invite à chanter ce cantique qui est le numéro 258 sur le recueil Louanges et prières, les trois strophes de ce cantique.
Thank you.
pouvez prendre place le temps de quelques annonces. D'abord, un grand, grand merci donc à Marcel Manoël pour cette prédication. Alors, il est en particulier président de la Fondation des Diaconesses de Reuilly, donc ça nous donne l'occasion, la chance d'avoir quelques sœurs diaconesses que je salue parce que, avec reconnaissance, parce qu'effectivement, elles ont un rayonnement avec leur communauté extraordinaire, en particulier dans des hôpitaux et dans l'accompagnement de personnes en fin de vie, mais aussi un rayonnement spirituel remarquable. Alors, vous trouverez à la sortie le texte de la prédication que Marcel nous a proposé, ce qui permet de revenir dessus, que ça nous donne effectivement sujet, matière à réflexion. Alors, sur la table, vous trouverez aussi le dernier bulletin de l'oratoire, la feuille rose, et puis peut-être aussi des feuilles d'inscription où vous pouvez vous proposer pour donner des coups de main bénévoles éventuellement dans la paroisse, parce qu'effectivement, ça marche comme ça aussi. Alors, à la sortie de ce culte, nous aurons donc une vente de gâteaux par les éclaireuses, le clan des Goléans.
On est les scouts de l'oratoire. Et on fait une vente de gâteaux devant le temple pour financer notre camp de cet été.
Merci beaucoup toutes les deux. Et donc, sinon, par ailleurs, j'ai la tristesse d'annoncer le décès donc, de Madame Olivia Lorsignol. Alors, c'est une famille que nous connaissons très bien, en particulier Monsieur Lorsignol, qui était même trésorier du Conseil presbytéral il y a quelques années. Donc, il y aura des obsèques ici le 2 mai à 14h30. Il y a, après le culte aussi, un repas paroissial, donc, qui est en face à la maison presbytérale, aux 4 rues de l'Oratoire. Grand merci à Juliette Lauvergeat et puis Marie-Lou Randon qui prépare donc ce repas en face pour nous accueillir. Même si vous n'êtes pas inscrit pour ce repas, eh bien nous débrouillerons pour qu'il y en ait pour tout le monde. Donc bienvenue à vous pour ce temps si vous le désirez. Pendant les vacances scolaires, il y a une suspension de bien des activités, bien sûr, mais il reste quand même la prière silencieuse samedi prochain à 18h dans la maison presbytérale aussi. Et puis le culte, dimanche prochain, c'est mon collègue Gilles Castelnau qui va nous donner la prédication, donc un grand merci. Et puis avec une surprise pour venir, c'est qu'il y a le marathon de Paris, donc il faut prendre un petit peu ses précautions, difficulté de circulation en voiture, en bus, et puis aussi pour traverser la rue de Rivoli, donc si vous comptiez arriver par la station Louvre, il vaut mieux descendre plutôt à Palais-Royal pour être du bon côté de la rue de Rivoli. Mais on y arrive quand même, et nous serons là, Gilles, avec joie, pour écouter ce que tu as à nous dire. Maintenant, les diacres de notre Église vont recueillir notre offrande, et c'est vrai que ce geste permet à l'Église de payer les factures, mais aussi permet de remettre en perspective dans notre existence le spirituel comme gouvernant le matériel. Et grand merci au cœur de l'oratoire, avec Fabien Aubé, de nous accompagner pendant ce culte. Grande reconnaissance pour ce que vous nous apportez avec Aurélien qui est là-haut à la tribune d'orgue. Nous nous unissons dans la prière. Père éternel, ton évangile nous a redit tout l'amour que tu as pour ce monde et ta parole fait ressentir au plus profond de nous cet amour. Et c'est pourquoi nous pouvons avec confiance te prier pour celles et ceux qui ont besoin d'aide. Fais-nous découvrir notre vocation. Nous te prions pour ceux qui nous dérangent. Prépare-nous à un nouveau regard. Nous te prions pour ceux qui manquent d'affection. Aide-nous à trouver les gestes et les mots. Nous te prions pour nos frères et sœurs en humanité. Rappelle-nous combien ils sont aimés de toi et qu'ensemble, nous formons un corps, celui du Christ, et qu'ensemble, nous sommes sur une même barque, une barque dans laquelle tu montes pour nous accompagner. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent une parcelle d'autorité dans le monde et donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Et nous te prions pour ton Église. Apprends-lui à devenir de plus en plus fidèle, vraie et courageuse. Et unis avec tous les chrétiens de toutes les générations et de toutes les chapelles, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors à la sortie, si vous le désirez, vous pouvez laisser les cantiques, les recueils de cantiques sur les chaises au bord des allées centrales pour fluidifier la sortie et puis peut-être libérer vos mains et bien pour saluer un ami, un frère, une sœur que vous ne connaissez pas encore. Mais pour l'instant, c'est la bénédiction de Dieu qui nous est donnée sans condition à notre personne individuelle, particulière, selon les paroles données à Moïse, pour son frère, à Aaron, pour qu'il porte cette bénédiction à chacun. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, béni sois-tu, ô Dieu, source de vie. Amen.